France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Stefan Zweig.
Le 23 février 1942, la police de la petite ville de Petropolis fut avisée que Juan González, 34, un couple d'étrangers distingués, venait de se suicider.
Stefan Zweig, 60 ans, le célébrissime écrivain et sa jeune épouse, Lotte, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, s'étaient retrouvés au Brésil, terre de refuge et d'avenir, après avoir quitté le vieux continent en 1940. Cette fois, plus encore que pendant la Première Guerre, Zweig désespérait complètement de l'Europe. Et cette fois encore, il avait choisi le départ, le retranchement. Au Brésil, Stéphane et Lotte ont rendu visite à Bernanos, exilé lui aussi dans le domaine de la Croix des âmes, mais autrement engagé. Depuis la guerre d'Espagne, le Français ne cessait de pousser de hauts cris contre les dangers du temps et le fascisme. Or, Bernanos fit le meilleur accueil à Zweig. Ne disputait pas avec lui, ne lui jeta pas ses béquilles à la figure, lui parla humainement et murmura « Cet homme va mourir ». L'idéal de Zweig s'effondrait en effet. Il avait eu un hôte dans chaque ville d'Europe de plus de 5000 habitants. Il croyait à l'amitié choisie des individus au-dessus des frontières. Et maintenant était venu le temps de l'affrontement décisif, et ce serait sans lui. Aujourd'hui, Zweig connaît un extraordinaire succès littéraire, une résurrection. Est-ce à dire qu'est venu le temps de la Fédération Pacifique de l'Europe dont il rêvait, ou bien revenu le refus des engagements trop entiers? Dominique Bonnat, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous travaillez depuis longtemps sur Stefan Zweig. Vous avez publié une biographie qui a été rééditée récemment chez Grasset, qui était avec Stock, l'éditeur français de Zweig. On peut commencer peut-être, on va suivre le fil du dernier livre qu'il rédigeait au Brésil, Le Monde d'hier, par évoquer l'enfance à Vienne, l'âge d'or, dit-il, de la sécurité. Il était né au cœur d'une Autriche où tout était organisé, où chacun avait sa place et où l'avenir était prévisible pour chacun.
Oui, en fait, à l'âge de 20 ans, c'est un jeune poète heureux de vivre, heureux d'écrire et qui regarde le monde autour de lui comme un monde enchanté. Né à Vienne en 1881, dans une famille fortunée, il n'a pas besoin de travailler. Il va pouvoir vivre de ses rentes. Et donc, il consacre tout son temps aux conversations dans les cafés, aux jeux d'échecs, également au tabac, à la pipe, il est grand fumeur. Et surtout, bien sûr, à écrire toujours et encore des poèmes et des poèmes.
Alors, si on revient aux toutes premières années, avant cette apothéose joyeuse, la société de Vienne, elle est organisée en cercle. Il y a la première société, l'empereur, qui se lève très tôt le matin et qui règle bureaucratiquement les affaires de la double monarchie. Et puis la seconde société, c'est à celle-là qu'appartient la famille de Zweig. La seconde bonne société.
Oui, Zweig appartient, on peut dire, à une des minorités qui constitue l'Empire d'Autriche-Hongrie, l'Empire habsbourgeois, cette minorité juive. Son père, Moritz Zweig, est originaire de Moravie, sa mère d'Allemagne. À la maison, c'est-à-dire sur le Ring, un grand appartement cossu, confortable.
Le Ring, c'est le boulevard circulaire de Vienne.
Voilà, une des grandes avenues de Vienne. À la maison, on parle toutes sortes de langues, l'allemand bien sûr, mais aussi l'italien, l'anglais. Il apprend le français très jeune, donc il y a autour de lui une culture cosmopolite.
Le Monde d'hier, qu'il rédigera donc dans son exil brésilien, qui évoque ses jeunes années, lu par Didier Flamand, c'est dans la série Un siècle d'écrivains de Bernard Rapp.
10 ou 20 000 familles ont vécu à Vienne. Établies depuis plus de 200 ans dans la ville impériale, les Juifs y trouvèrent une tâche personnelle à remplir. Au cours du siècle passé, le culte des arts avait perdu en Autriche ses gardiens et protecteurs institutionnels. Et ce fut justement l'orgueil et l'ambition de la bourgeoisie juive de paraître là, au premier rang, afin de maintenir dans son ancien éclat la renommée de la culture viennoise. Les Juifs avaient toujours aimé cette ville et s'y étaient acclimatés de toute leur âme. Mais seul leur amour de l'art viennois leur permit de sentir qu'ils avaient pleinement acquis droit de cité, qu'ils étaient véritablement devenus des Viennois. Gustav Mahler, Schönberg, Oskar Strauss, Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Peter Altenberg, Max Reinhardt, Freud, par leur amour passionné de cette ville, par leur volonté d'assimilation, y étaient parfaitement adaptés. Et ils étaient heureux de servir la gloire de l'Autriche.
Dans la cinquième symphonie de Mahler, l'Adagietto, Mahler qui a dirigé l'opéra de Vienne, il se croyait Mahler. Et puis Zweig aussi, dans une maison de pierre, il vivait peut-être, ces Juifs du Ring, dans un château des nuages, parce que à cette époque-là, ayant une mémoire plus polémique, Dominique Bonnat, il y avait quand même un fort courant antisémite dans la capitale, à
oui,
l'hôtel
bien sûr,
de ville, à l'université.
L'antisémitisme était extrêmement virulent à cette époque. Mais évidemment, pour les Juifs qui vivaient à Vienne, il n'y avait pas de ghetto, il n'y avait pas de pogrom, contrairement à ce qui se passait encore un peu plus à l'Est. Et ils bénéficiaient tout de même de l'égalité des droits civiques dans cet empire. Donc pour eux, c'était d'une certaine façon un privilège d'être nés là, plutôt qu'un peu plus loin. Et pour eux également, c'était, si vous voulez, des familles où on ne cultivait pas cette différence-là, en tout cas chez les Zweig. On essayait plutôt de faire oublier le particularisme juif et de vivre à une autre échelle qui était vraiment une échelle universelle. C'est-à-dire que la littérature que l'on voulait pratiquer, que l'on voulait écrire, celle que l'on aimait, c'était une littérature qui englobait à la fois Dostoïevski, Goethe, Balzac, Cervantes, elle n'avait pas de frontières, cette littérature. Et c'est sur ce chemin-là, sur ce chemin idéalement cosmopolite, universel, que s'engage le très jeune Zweig.
Si vous voulez, m'avez-vous dit, il faudrait qu'on n'évoque pas tant les grands mouvements apparents et spectaculaires que les plus petits faits qui dessinent une atmosphère, et parmi les plus petits faits, ceux qui relèvent de l'expérience personnelle, à l'école, au collège, à l'université, comment était-ce ?
Mais lui-même a raconté tout cet épisode effectivement dans Le Monde d'hier et a toujours dit qu'il n'avait jamais souffert d'insultes, d'injures. Alors disait-il cela parce que Le Monde d'hier, il a tout de même écrit en exil, il a écrit justement au Brésil quelques jours même avant de se suicider et il vivait complètement au Brésil dans une nostalgie de l'Autriche, dans une nostalgie de cette ville natale, de cet empire qui lui a été pendant très longtemps une sorte de cocon et dans lequel il a pu vraiment exprimer à la fois ses rêves et ses penchants.
L'école, le collège, l'université, ils étaient néanmoins très militarisés.
Oui.
Ça diffusait l'ordre et ça infusait la sensualité.
Oui, mais il s'est très vite échappé de tout cela. Je crois qu'il y a, chez Stefan Zweig, qui m'a fasciné en écrivant ce livre, c'est qu'il y a à la fois l'apparence, l'homme courtois, très élégant, toujours impeccablement habillé, dont la voix est toujours égale et douce. Et puis, il y a l'écrivain des ombres, des angoisses, des doutes, tout ce qui surgit, cet écrivain aussi de l'érotisme coupable, celui qui a si bien parlé, et de la femme adultère, et de l'enfant malheureux, victime de la société de son époque. Donc il y a cette déchirure au sein de Stefan Zweig. D'ailleurs, vous évoquiez Bernanos au début de cette émission. Pour moi, ce sont deux types d'hommes et deux types d'écrivains. Bernanos, c'est le feu, un feu que rien ne pourra jamais éteindre. Et Zweig, au contraire, c'est l'homme de la fragilité, des angoisses et surtout des ombres.
Alors, étudiant, il n'appartient pas aux corporations grégaires qui pratiquent la servilité de groupe, l'agressivité dans les castagnes ou dans les bals. Ce qui l'intéresse, lui, c'est l'apprentissage de l'individualité et de la liberté. En témoigne ce passage de la confusion des sentiments. On est dans une université, dans un trou perdu, dit Zweig. C'est souvent situé ainsi, les lieux de Stefan Zweig, où un professeur ambigu reçoit un étudiant partagé.
En dehors de la littérature anglaise, on ne peut pas dire que je me passionne pour grand-chose.
Et vous allez trouver tous vos professeurs racontant à chacun d'eux que rien ne vous captive autant que la matière qu'il enseigne.
Pas du tout, non. Vous ne me croyez pas?
Si.
Alors qu'est-ce qui vous fait sourire, monsieur?
C'est merveilleux d'avoir votre âge et de ne douter de rien. Excusez-moi si je vous ai blessé. mais tout à fait sympathique. Vous avez beaucoup d'amis ici?
Aucun. Comme je vous l'ai dit, je débarque.
Et vous allez trouver facilement à vous loger?
Je ne m'en suis pas encore occupé. En arrivant, j'ai laissé mes malles à la consigne et je suis venu directement à l'université pour m'inscrire.
Ça, c'est indiscret. Si vous n'y connaissez personne, qu'est-ce qui vous a décidé à venir vous enterrer dans ce trou?
L'université est réputée, n'est-ce pas?
Pour ce qui est du divertissement, les tentations sont rares.
Ça m'est égal. Peut-être même que c'est mieux.
Vous n'aurez pas à succomber.
Il y a un peu de ça, oui.
Le film d'Étienne Périer a souvent été adapté à l'écran. Stefan Zweig, avec Michel Piccoli dans le rôle du professeur d'humanité, élisabéthaine, et puis l'un des jumeaux malais, chef-d'œuvre d'ambivalence dans le rôle du jeune étudiant. Ambivalence.
Oui, ambivalence si on veut, mais en même temps aussi efficacité. C'est là que dans cet extrait, par exemple, on voit très bien l'art de Stefan Zweig. Il y a très peu de mots, il y a des phrases très simples, et en même temps, c'est tout un univers qui est évoqué. La sensibilité n'est pas longuement développée, ce n'est pas une thèse sur l'art d'être sensible, c'est vraiment dans les mots, dans une espèce de c'est dans l'écriture, vraiment. Et qu'on le lise en français, où il a été magnifiquement traduit, ou en allemand, il y a cette espèce de sensibilité même de la phrase qui évoque ce monde de Stefan Zweig.
Tout est en finesse, parce que le professeur est peut-être attiré par l'étudiant. L'étudiant ne sait pas. En matière érotique, puisque vous voulez qu'on insiste là-dessus, il y a tout un chapitre dans votre livre, Dominique Bonnat, sur le sujet. S'il y avait ambivalence chez Zweig, c'était pas entre homosexualité et hétérosexualité, c'était dans la vie avec les femmes, entre les femmes auxquelles il s'attachait, rares, et les épisodes.
Oui,
je ne dis pas
épisode,
le matériel, comme disent certains hommes politiques ou anciens hommes politiques, mais les épisodes.
Il appelle épisodes les rencontres de hasard. C'est dans son journal, il les nomme ainsi. Il ne donne jamais les prénoms, ou très rarement. Dans sa vie, il y a eu deux épouses successives, Friedrich puis Lotte. Il a divorcé de la première. Et c'est avec Lotte qu'il va mourir au Brésil. Mais extrêmement discret, toujours avec cette espèce d'éducation viennoise très polissée. Il cache évidemment cette vie souterraine, cette vie secrète. Et il y a une sorte d'écho d'ailleurs entre cette vie-là et puis les nouvelles de Stefan Zweig, 24 heures de la vie d'une femme par exemple, ou d'autres, ou Brûlant secret, qui évoquent justement les secrets des femmes et des hommes, l'univers en fait de l'éros qu'il est allé explorer presque aussi loin sans doute que son maître, le docteur Freud.
Ça y est, on a trouvé un des secrets du succès d'aujourd'hui, de Zweig auprès de la jeunesse. Les amours sont des épisodes et les lectures sont des nouvelles, ne doivent pas être trop longues. Alors il y avait des lieux merveilleux, plus encore que Vienne, la Prude, pour abriter des amours. Épisodes, Berlin, Bruxelles, il mène une vie nomade dans ces années d'avant la guerre.
Oui, c'est un 14. Grand voyageur, très
Paris.
Grand voyageur.
Il aimait beaucoup Paris.
Il aimait énormément Paris. L'un de ses amis l'appelait le Salzbourgeois volant, parce qu'il habitait en fait surtout Salzbourg entre 1920 et 1930, plutôt que Vienne. Mais de là, il était sans cesse sur les quais de gare ou dans les aéroports. Et c'est vrai qu'avec Paris, il a entretenu une véritable histoire d'amour.
Alors, Paris est un peu idéalisé. Hein. Les plus jolies filles ne rougissaient pas, nous sommes avant la guerre de 14, de se rendre à l'hôtel le plus proche, avec un nègre noir comme la poix, ou un chinois aux yeux bridés, je le cite toujours, qui se souciait à l'époque de ces épouvantails qu'on a maniés plus tard, la race, la classe et l'origine. Alors, dans le Paris joyeux, des filles qu'on pouvait rencontrer au hasard du métro, tenez,
dans le métro, une dame s'assied près de moi, je la regarde aussitôt, mais la lumière juste à ce moment s'éteignit subitement. Ma voisine effrayée s'est dans mes bras, affolée je l'embrasse, et puis ce jour-là, je l'ai cherchée en vain, et plein d'émoi, je dis à chaque femme que j'aperçois, est-ce la petite femme qui était l'autre tantôt près de moi dans le métro? À la station de l'Odéon, je n'ai pas pu vous voir car il faisait trop noir. Mais je voudrais savoir, est-ce vous dont le baiser si tout m'a rendu amoureux pour...
Tout se présentait uni et clair à mes yeux en cette 32e année de ma vie. Le monde s'offrait à moi beau et chargé de sens, comme un fruit délicieux dans cet été rayonnant. Et je l'aimais pour son présent et pour son avenir encore plus beau.
Le 28 juin 1914, à Sarajevo, un jeune nationaliste bosnien abat l'archiduc François Ferdinand. Un mois après, la guerre est déclarée à la Serbie. En octobre 1918, l'empereur Charles annonce la transformation de l'Autriche-Hongrie en État fédéral. Les traités de Saint-Germain et du Trianon, en septembre 1919 et juin 20, consacrent la République d'Autriche.
Le train s'avança lentement. La locomotive s'arrêta. Je reconnus derrière la glace du wagon la haute stature dressée de l'empereur Charles, le dernier empereur d'Autriche, l'héritier de la dynastie des Habsbourg, qui avait gouverné le pays pendant 700 ans, quittait son empire. C'était un moment historique que je vivais, et doublement bouleversant pour un homme qui avait été élevé dans la tradition de l'Empire. Je savais que je rentrais dans une autre Autriche, dans un autre monde.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Stefan Zweig, 1881-1942, avec Dominique Bonnat, sa biographe, chez Grasset. La Grande Guerre, très resserrée, là, dans cet extrait que nous avons monté. Interruption des épisodes précédents. Impossibilité, c'est la guerre, de tenir une conversation raisonnable avec quiconque. Et volonté de la part de Stefan Zweig, bon, qui a été soldat, mais jamais vraiment sur le front, de se tenir, Dominique Bonnat, au-dessus de la mêlée.
Cette guerre de 14, c'est la première grande blessure dans la vie de Stefan Zweig. Rien ne sera pareil après la Première Guerre mondiale. Au départ, ce grand voyageur, cet Européen convaincu, qui est l'ami de Romain Rolland, d'Émile Verhaeren, doit prendre l'uniforme autrichien. Il s'engage dans l'armée. Il travaille en plus au ministère de l'Intérieur. Il est à la propagande. Et c'est un nationaliste qui voit les débuts de la Première Guerre mondiale, cela jusqu'en 1915. Mais très vite, après cette première réaction, presque étonnante pour les lecteurs de Stefan Zweig qui le connaissent bien, une évolution solide et ferme vers le pacifisme et au-delà même vers le défaitisme, puisqu'il va écrire un éloge du défaitisme.
Ne jamais écrire un mot qui parut approuver la guerre, ni rabaisser une autre nation.
Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une philosophie qui se forme, c'est une philosophie qui trouve un écho profond en lui et qui va pouvoir s'exprimer grâce au théâtre, bizarrement, puisqu'il est invité à Zurich en 1917 pour y voir représenter sa pièce Jérémie. Jérémie, du nom du prophète de l'Ancien Testament, qui annonce les catastrophes. D'ailleurs, souvent, Zweig, par ses amis, était surnommé Jérémie. Et c'est à Zurich que, retrouvant ses amis, Hermann Hesse notamment, et puis Romain Rolland, il va absolument définir cette position qui sera la paix avant tout et l'Europe avant tout, dans l'amitié et la fraternité.
C'est de Suisse, où il a passé une bonne partie de la fin de la Grande Guerre, qu'il vient quand il croise en gare le train de l'empereur finissant, le jeune Charles accompagné de Zita. L'Église catholique vient de béatifier l'empereur Charles au titre de prince de la paix pour une Europe unifiée. Et on entendait une certaine bienveillance de la part de Zweig dans le portrait.
Oui, Stefan Zweig, très ému quand il écrit cette page-là dans Le Monde d'hier, on sent que c'est une page très forte. Et en fait, les deux trains se croisent, lui encore en uniforme de soldat autrichien, presque, il s'en souvient en tout cas au début de la guerre, et il voit repartir, rentre dans son pays, et il voit partir vers l'exil cet empereur, en effet. Pour Stefan Zweig, c'est une image qui se grave en lui. Vous disiez que Charles a été béatifié. quelquefois, je me dis, il serait temps peut-être qu'en Autriche aussi, on béatifie Stefan Zweig. Stefan Zweig n'est pas toujours à l'honneur, notamment à Salzbourg. Vous savez, quand on revient sur les pistes de Stefan Zweig, on cherche sa maison à Salzbourg, une maison incroyable sur les hauteurs du Kapuzinerberg, à laquelle on accède par un chemin du calvaire. Eh bien, il n'y a aucune plaque commémorative. Il y en a peut-être une maintenant, mais il n'y avait pas il y a peu. Donc, Stefan Zweig, peut-être un jour béatifié, pourquoi pas.
Alors à Salzbourg, il s'installe en rentrant, 1920, c'est sa première femme, Frédéric, qui assume le quotidien et ce n'est pas facile dans cette autre Autriche qu'il redécouvre au début des années 20.
Pour la première fois, je considérais les yeux jaunes et dangereux de la famine. On s'accoutumait. Jamais en Autriche, nous n'avons aimé l'art davantage que durant ces années de chaos. Car voyant que l'argent nous trahissait, nous sentions que seul ce qu'il y avait en nous d'éternel était véritablement constant. Jamais je n'oublierai une représentation en ces jours d'extrême détresse. On payait sa place de galerie avec une liasse de billets de banque qui aurait autrefois suffi à louer une loge de luxe pour toute l'année. On ne retirait pas son par-dessus, car la salle n'était pas chauffée, et l'on se serrait contre son voisin pour avoir plus chaud. Il ne restait qu'un parti à prendre, travailler à son œuvre dans le silence et la retraite.
Dans le silence, la retraite, et puis peu à peu, les choses, selon lui, s'arrangent, au moins, apparence. La maison de Salzbourg s'embellit de beaucoup de collections, vous aviez commencé à la décrire.
Oui, dans cette maison, il y a au moins deux choses extraordinaires. D'abord, une bibliothèque qui comprend 12 000 volumes, et puis il y a une grande malle en fer. Dans cette grande malle en fer, Zweig entasse ses trésors. Et ce sont des manuscrits, et des manuscrits d'écrivains et des partitions de grands musiciens avec des dédicaces ou des autographes. Zweig vénère le travail de la création et il est allé chercher dans les manuscrits des écrivains comme dans les partitions de musiciens les traces de l'effort créatif, donc les brouillons, les ratures, les corrections.
Il peut collectionner les autographes parce qu'il a de plus en plus d'argent. Le succès me suit avec une obstination surprenante. C'est une période très féconde, hein, les années 1924-1933.
On dit que le mot best-seller a été inventé pour lui. Et en effet, aussitôt qu'il écrit des nouvelles ou des biographies, aussitôt, il trouve un public. Non seulement, d'ailleurs, un public de langue allemande, mais un public dans le monde entier. C'est un des écrivains de son époque qui est le plus traduit au monde, que ce soit en français, en brésilien, enfin, toutes les langues de la Terre. D'ailleurs, il accompagne beaucoup ses livres. Il va d'un pays à l'autre porter, en quelque sorte, la bonne parole. Il a deux très belles conférences qu'il prononce un peu partout, de Berlin à Lisbonne, qui sont d'une part la pensée européenne et d'autre part l'histoire de demain. Cette histoire de demain dont il espère qu'elle sera le récit des actions phénoménales, non pas des rois, des reines ou des hommes politiques et des femmes politiques, mais justement des artistes, des écrivains, des hommes de science, des grands découvreurs, des grands voyageurs.
Alors, il a fait beaucoup de biographies, préfère Erasme à beaucoup d'autres personnages qu'il a choisi parmi les reines Marie-Antoinette, c'est un livre qui est très connu en France, Marie Stuart. Une seule biographie d'homme politique, c'est Fouché, c'est-à-dire l'estime dans laquelle il tient la politique. Mais la politique le tient, parce que de la maison de Salzbourg, on voit le nid d'aigle de Hitler.
Oui, il était juste en face de Berchtesgaden, de l'autre côté de la montagne, on peut dire aux premières loges. Mais de toute façon, il était toujours aux premières loges de l'histoire parce que cet homme sensible et plutôt délicat avait tout de même une vision de l'histoire très, très généreuse et très vaste. Donc il a parfaitement compris tout ce qui se passait avant l'heure.
Le fragile système démocratique de la jeune République d'Autriche s'effondre. Un chancelier autoritaire, clérical, Dollfuss. Mais au moins, veut-il préserver l'indépendance du pays, mais la pression nationale socialiste est la plus forte. 1934.
Les nationaux socialistes tentent un coup d'État qui échoue, mais le chancelier Dollfuss est assassiné.
Le chancelier Schuschnigg annonce pour le dimanche suivant un plébiscite qui permettra à l'Autriche d'affirmer sa volonté de rester indépendant. Un ultimatum allemand exige l'ajournement du plébiscite. Le gouvernement autrichien s'incline. Un second ultimatum exige le départ de M. Schuschnigg.
Où va l'Autriche? Mais où va l'Europe?
Et où va Zweig? Dès fin 1933, il quitte de fait l'Autriche. Il va continuer à nomadiser en Europe et va s'installer en Angleterre. Et quand la guerre se profile, toujours la même attitude, le retranchement plus que la résistance.
Il part très tôt, en vérité, parce qu'il quitte l'Autriche sous le prétexte d'écrire sur Marie Stuart et de se documenter à Londres. Mais c'est pour lui une décision capitale, il ne veut plus rester en Autriche. Et ses amis, aussi bien que sa femme d'ailleurs, ne le comprennent pas et pensent qu'il est en effet Jérémie, un oiseau de malheur qui annonce des catastrophes qui n'arriveront pas. Et lui a une sorte de vision prophétique des catastrophes qui vont survenir. Donc c'est d'abord Londres, ce sera par la suite New York, il ira faire un voyage en Argentine, finalement on ne reste pas en Argentine, et c'est au Brésil qu'en 1941, fin 41, il finira par se réfugier.
Oui, mais attendez, moi je vais vous arrêter à Londres, Dominique Bonnat, parce que Londres lui offre l'asile.
Et
Londres
la nationalité.
Le naturalise en mars 40. Je ne sais pas si les prophètes en Israël abandonnaient toujours la guerre quand elle commençait. Et c'est à l'été 40 qu'il quitte Londres parce qu'il ne veut pas prendre position officiellement contre le Troisième Reich et il ne veut pas participer à ce qu'il considère comme une propagande britannique contre le Troisième Reich.
C'est là qu'on retrouve son livre sur Erasme, en fait. Ce livre, c'est une sorte, on peut le lire comme un autoportrait de Stefan Zweig. Erasme, c'est l'homme seul. C'est l'homme qui s'est fait une philosophie pour lui-même. Cette philosophie, c'est homo pro se, être un homme pour soi-même. Zweig ne s'engage pas dans les combats, il reste avec ses idées, avec son, je dirais, sa distance avec les événements. Et en même temps, il considère que c'est son œuvre même qui doit transporter son message. Donc, il ne signe pas les pétitions, il ne rejoint pas les groupes de combat. Et pour lui-même, il cherche un asile, un endroit calme où il pourra continuer à écrire.
Alors, admettons que
cette œuvre d'écrivain est son véritable combat.
Admettons que ce soit l'explication, parmi d'autres, du grand succès qu'il a dans la jeunesse d'aujourd'hui. Le plus grand courage, c'est de ne pas être avec le groupe, mais de faire face seul à la structure. Ce qui le fait, vous l'avez dit, partir au Brésil en 40 et partir encore plus loin. C'est le 70e anniversaire en cette fin février de son suicide à lui et à sa jeune femme, Lotte.
Carnaval de Rio 1942, tel qu'Orson Welles l'avait mis en scène sur place pour It's All True. En même temps, dans les rues de Rio se promenaient deux exilés européens fuyant la guerre mondiale. Ils étaient descendus des hauteurs verdoyantes de Pétropolis pour découvrir la grande fête populaire. Ils devaient se suicider le lendemain. Sur la table, un document destiné au maire de Pétropolis, intitulé « Déclaration en portugais, mais rédigé en allemand », exprimait la gratitude de l'écrivain pour l'hospitalité dont il avait joui.
« Et nulle part ailleurs je n'aurais préféré édifier une nouvelle existence. Maintenant que le monde de mon langage a disparu pour moi et que ma patrie spirituelle, l'Europe, s'est détruite elle-même. Mais à 60 ans passés, il faudrait avoir des forces particulières pour recommencer sa vie de fond en comble. » Et les miennes sont épuisées par des longues années d'errance. Aussi, je pense qu'il vaut mieux mettre fin à temps et la tête haute à une existence pour laquelle le travail intellectuel a toujours été la joie la plus pure et la liberté individuelle le bien suprême de ce monde. Je salue tous mes amis. Puissent-ils voir encore l'aurore après la longue nuit? Moi, je suis trop impatient.
À côté, une enveloppe portant la mention « Disposition concernant mon chien ».
Oui, tout était en ordre, les impôts payés et le chien confié à des amis brésiliens. Un livre de Dominique Fricher chez Écriture vient de paraître sur le suicide de Zweig qui dit que le suicide relève de l'histoire du sujet, du couple aussi, entre Lotte et Zweig, de ses tendances dépressives autant que de l'histoire du temps. Votre livre, merci Dominique Bonnat d'être venu nous en parler. Sa dernière édition, c'était chez Grasset l'année passée, consacrée à Stefan Zweig. Et puis, vous publiez dans peu de temps, toujours chez Grasset, l'éditeur de Zweig, un livre sur les sœurs croire. Les muses de l'impressionnisme, très proche du milieu de Debussy. Demain, nous parlons du référendum d'octobre 62 sur l'élection présidentielle au suffrage universel. Mazette, Guillaume Roux et Frédéric Boeuf à la technique. Jacques Sigal à la réalisation, la préparation. Frédéric Martin, Franck Olivard et Camille Poux-Jalaguier. Il est 14h.